que si par exemple vous avez un accident, que vous avez besoin d'accéder à un bloc opératoire, le plus proche.
Il vaut mieux mourir d'abord. Ouais, je crois, ouais. Si on meurt, on a plus de chances d'aller au paradis que d'aller à l'hôpital. Je pense qu'il vaut mieux mourir si on a un accident. Hein ? Il n'y a plus rien.
Si les petits collèges tombent, les plus gros suivront. Quand tous les collèges seront tombés, où iront les élèves ? Où iront-ils tous ? Où ?
Dans le privé. Dans le privé.
Il a raison. Il a raison. Ce sont les gouvernements.
Le service public, on n'en parle plus du tout aujourd'hui, c'est le profit, le profit, le profit.
Nous avons perdu notre maternité, nos soins intensifs, notre bloc opératoire. Mais les choses se font très cachées. Et là, depuis quelque temps, c'est quand même un rouleau compresseur qui a attaqué le service public dans sa globalité.
Comme il y a beaucoup d'enfants qui vont rentrer en 6e dans 2 ans, ils parlent de nous la fermer aussi, notre école. Donc plus d'école, plus de boulangerie, plus rien.
Et c'est une autre raison d'être, c'est notre raison de vivre, parce qu'il est bien évident que si on porte un coup au service public chez nous, c'est la vie qui s'en va. C'est vraiment la vie qui s'en va. C'est-à-dire c'est l'impossibilité de rester une terre d'accueil.
Espérons bien qu'on maintiendra notre poste de vivrogue. Parce qu'on tient quand même à notre canton, on tient à notre poste, comme on tenait à la gendarmerie, comme on tenait à tous les services publics.
On ne demande pas le grand soir, hein. On ne demande pas le grand soir, on ne demande pas des choses comme ça. Mais on demande de pouvoir vivre dans nos territoires, de pouvoir y vivre, y travailler, se soigner. On demande ça, on ne demande rien d'autre.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry, l'État démantelé. Flight number 2,
arriving from New York. Bonjour, la loi Bachelot-Sarkozy frappe de plein fouet nos hôpitaux, nos maternités. C'est tout notre service public de santé qui se détériore, tant pour celles et ceux qui en ont besoin que pour celles et ceux qui y travaillent. Les franchises médicales, les déremboursements, les dépassements d'honoraires, les restructurations hospitalières, les privatisations, le démantèlement de la sécurité sociale, la réforme de la dépendance, la mise à mal de la psychiatrie remettent en cause l'accès aux soins pour des millions de nos concitoyens. À Ambert, sous-préfecture du Puy-de-Dôme en Auvergne, nous avons perdu notre maternité. La psychiatrie n'a plus de psychiatre. Du bloc opératoire tout neuf, on a chassé les chirurgiens et les anesthésistes et mis à profit cette opportunité pour réduire les temps d'ouverture de cette structure. Le mariage de raison imposé avec l'hôpital de Thiers, situé à 53 km, a du mal à être consommé. L'agonie continue. On subodore depuis cette semaine la fin des actes opératoires sous anesthésie totale, ce qui induit la fermeture du bloc opératoire et une diminution importante, voire totale, des lits en chirurgie. Parallèlement, la radiologie locale doit fermer son activité pour cause de retraite et nous avons des craintes sur les prélèvements sanguins dans les cabinets d'infirmiers libéraux. Plus de tribunal, nos écoles rurales ferment, nos bureaux de poste disparaissent, nos collèges ruraux sont fragiles. On a même voulu nous supprimer nos gendarmes. Notre cas, il n'est pas le seul, est typique de l'étouffement d'une collectivité de citoyens qui veut vivre en dehors des grandes métropoles, vivre, se former, travailler, se soigner au pays. Ce qui se passe chez nous est un cas d'école. Le modèle libéral s'applique dans toute sa cruauté. Si ton calendrier le permet, Daniel, à toi et à ton équipe, viens venez dénoncer avec nous la lente agonie d'un territoire de vie. Merci.
C'est curieux quand même, hein. C'est curieux. On s'est félicité de ce modèle français. Il y a guère de temps, modèle français qui nous a permis de résister aux dérives du capitalisme financier qu'on a appelé la crise. Et ben, ça n'a pas empêché le gouvernement de poursuivre son grand plan de destruction des services publics. Et ce grand plan, il ne faisait que poursuivre les plans précédents de destruction de ces services publics en vue de leur privatisation. Il y a eu EDF, il y a eu France Télécom, Air France et beaucoup d'autres. Et il y a la Poste, ce qui entraîne la désertification de milliers de bourgs et de villages. Bientôt, ce sera la SNCF, bientôt la RATP. Ce que nous avons montré et démontré, que vous savez, c'est que tout ça, c'est une affaire d'idéologie. La privatisation, ces privatisations organisées depuis si longtemps, sont dues à une façon de concevoir la société, la vie, le monde, la politique, et qu'on pourrait faire autrement. Il y a des choses curieuses dans les sondages. On a eu des sondages là récemment qui ont fait qui font grand bruit, même si des sondages à nouveau publiés contredisent les précédents. Peu importe, ça crée beaucoup de bruit et de commentaires et d'émissions et de radio, de télévision, d'articles, etc. Et c'est assez curieux parce qu'il y en a un certain nombre qui n'ont aucun écho, qui pourraient avoir des échos, avec toujours la même suspicion, bien sûr, sur les sondages. Mais enfin, en termes d'échos, le 25 janvier, La Croix publiait un sondage, IFOP pour La Croix, indiquant que 33% des Français sont opposés au système capitaliste. Ils jugent qu'il faut abandonner le système capitaliste. 33%, c'est quand même énorme. Les Français, selon ce sondage, sont fâchés avec la mondialisation. Il faut désormais abandonner le système capitaliste. Et de tous les pays interrogés, car ce sondage avait été fait dans nombre de pays, eh bien, nous sommes les plus anticapitalistes comparés aux États-Unis, comparés à l'Allemagne. Partout, une majorité de l'opinion juge fortement probable qu'une nouvelle crise économique éclatera dans les prochaines années. C'est quand même pas mal. C'est le cas pour 9 Français sur 10. Les trois quarts des Chinois et les deux tiers des Néerlandais. Et il y a désormais, toujours selon ce sondage, une demande très forte pour plus de réglementation. Qu'il s'agisse d'obliger les entreprises qui délocalisent à rembourser les aides publiques qu'elles ont touchées, 92% des Français sont pour, 87% des Allemands et 73% des Américains. Qu'il s'agisse de taxer des produits provenant de pays pratiquant un dumping social, fiscal ou environnemental. De plus en plus, en conclusion, le clivage entre les élites et les populations est désormais assez net sur tous ces sujets. Il y a une vraie attente des populations pour la mise en place de nouvelles règles du jeu, voire d'un peu de protectionnisme. Alors, encore une fois, je souligne qu'il s'agit de douter fortement de sondages. Mais ce qui est assez curieux, c'est que celui-ci, celui que je viens de citer, n'a pas eu le même écho que celui concernant la position du Front National ces jours derniers. C'est pas mal quand même, hein. On pourrait peut-être se dire qu'il y a une certaine part de vérité dans celui-là, au moins sur un point. C'est l'opposition entre des élites, entre une oligarchie et un peuple pris dans sa multitude, qui sont vraiment de plus en plus antagonistes. Une oligarchie qui veut imposer sa vision du monde, défendre ses intérêts contre une population de plus en plus désorientée, résignée, mais on va le voir, pas toujours et pas uniquement. C'est jusqu'à 16 heures, c'est là-bas si j'y suis. On est au fond de la cuvette et on gratte les mailles.
Dans chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Recevoir une lettre, vous mettons les mois. Chacun se dit peut-être, il y en a une pour moi. Voilà pourquoi, quoi, quand le chien aboie, quoi, tout le monde se dit avec joie. Tiens, voilà le facteur. à cheval sur son vélo, à côté quand ça monte trop. Tiens, voilà le facteur. Et pour les plis très urgents, en courant, il prend son temps. Quand il roule rapidement, ce n'est pas pour un urgent, mais c'est tout simplement parce qu'il est poussé par le vent. Voilà le facteur. Quand il roule un peu penché, c'est qu'il porte une lettre chargée. Sacré facteur. Et lorsque vous restez quelques jours sans courrier, chez vous quand même il vient pour vous dire aujourd'hui y a rien. Voilà le facteur. Venez boire à ma santé, vous l'avez bien mérité. Merci bien, facteur. Et à demain.
Je m'appelle Michel Vialard, moi j'habite à Idisol. C'est à 3 km en allant sur Vervivrolles. Il y a 5 ans que je suis facteur rouleur, d'abord sur Amber, puis après je suis venue à Saint-Anthème et Vivrolles.
Facteur rouleur, c'est quoi
exactement? C'est-à-dire qu'on remplace sur toutes les tournées. Il y a 17 tournées à Amber, donc j'en ai pas appris 17, mais j'en ai quand même appris 11.
Vous êtes originaire d'ici?
Oui, oui. Mon mari aussi. Mais avant, on habitait à Clermont. Voilà, on est resté pas mal de temps à Clermont. Et puis, mon mari a été muté ici. Enfin, il avait demandé à Amber. Donc, moi, je suis venue avec lui. C'est là que je suis rentrée à la poste. En fait, je suis rentrée à la poste en 92. Mais au début, j'avais des petits contrats comme ça. Et puis après, en 2002 à peu près, j'ai eu un CDI. J'ai une dame à qui je donne le journal.
C'est mon ami aujourd'hui.
Oui, voilà.
Bonjour.
Ça va?
Ça va, oui. Bien sûr.
Alors la dame, elle a son journal tous les jours, on vient la voir là.
Tous les jours, on a la chance et puis on a un multiservice.
Ouais.
Alors avec un multiservice, c'est vrai que dans nos campagnes, c'est formidable. En même temps, ils font la poste,
oui.
Mais bon, bref. C'est parce qu'on va le plus, parce qu'on a notre factrice qui vient, on a la poste à Vivrolles. Il faut quand même aussi maintenir notre poste à Vivrolles. C'est ce qu'on souhaite, hein? Parce qu'on tient quand même à notre canton, on tient à notre poste, on tient à nos... Comment tenir à la gendarmerie, comment tenir au... à tous les services publics. À tous les services publics. Il y avait avant les impôts. Je trouve pas. La trésorerie,
oui,
la trésorerie,
la perception,
et la perception, et que nous n'avons plus. Ouais. Et maintenant, il faut aller à Amber. Ce qu'on souhaite, c'est garder quand même nos administrations, notre service public.
Est-ce que ça disparaît, là, les services publics?
Je vais enlever ma viande parce que je vais manger de la viande toute brûlée.
D'accord.
Mon mari est décédé depuis très longtemps. Mais moi, je ne suis ici que depuis ma retraite, hein. Et peut-être bien que je finirai pas tout à fait ma carrière là, mais enfin, on va voir.
Ben merci beaucoup.
Voilà, au revoir.
Bonne
au
journée,
revoir.
À demain.
À demain.
Voilà, les gens aiment bien discuter, parler un petit peu, même si on ne dit pas grand-chose. Voilà. Bon, alors là, on quitte le bourg de Saillant et on va... monter un peu, on va commencer les villages.
Ça, c'est une vierge marée, là.
Oui. D'abord, il y a des vierges partout, des croix, tous les chemins, il y a des croix. Et c'est une tradition ici. Là, on est sur la route de la Cholme. Alors là, c'était un village, et ben il ne reste plus qu'une personne, que ces gens-là, qui habitent toute l'année là. On ne va plus là-bas, dans le village, vraiment le cœur du village, là-bas, on n'y va plus, il n'y a plus que...
Ah, il n'y a plus personne dans le village non. Même.
C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de villages où l'hiver, ben, il n'y a plus grand monde. Hein. Il y a même des villages où on ne va plus du tout. Quoi.
Le Semeur, c'est quoi?
Le Semeur, c'est un petit magazine local. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés. Voilà, le Semeur Hebdo. Il y a des nouvelles sur la région. Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés. Oula, le Semeur, c'est aussi important que le journal. Hein. C'est le vendredi, s'ils n'ont pas le Semeur, le vendredi, ils sont perdus. Ils aiment bien. Elle a le semeur et le journal, cette dame. Elle a le journal tous les jours. Le Progrès, le journal de la Loire.
C'est la nouvelle factrice ?
Non, c'est une journaliste de France Inter.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous veut ?
Je suis la factrice en tournée.
La factrice, ça aide beaucoup, c'est vrai. Quand on a besoin de timbres ou d'importe, elle nous les apporte, c'est vrai. Ou quand on a à payer quelque chose, on le donne à la factrice, elle nous... Et quand on veut refaire tirer de l'argent, c'est pareil.
On apporte de l'argent aussi aux gens.
Et moi, je ne conduis pas, vous comprenez ? Moi, je sais que le jour qu'on passe à la factrice, ne passera plus. Moi, je voudrais que la poste, voyez, elle tienne, qu'elle reste. Parce que si un jour, elle part, on ira où ?
Bien sûr.
C'est les personnes âgées, ils n'ont rien de plus.
Ouais.
C'est bien, moi, j'ai dans un village. Surtout, nous, on est loin de vivre.
Oui, oui.
Saint-Antin, c'est pareil. Ça nous fait 10 km.
Ah oui, ça fait loin.
Eh bien, sans voiture, voilà. Moi, je ne peux pas y aller. Moi, je sais que le facteur, pour la Noël, moi, j'ai donné son étreinte. Il a
le bon calendrier, cœur. Oui, voilà. C'est important, le calendrier.
Un calendrier, c'est tout.
Oui.
Le facteur, c'est tout, moi, je dis. C'est quelqu'un qu'on voit tous les jours. Mais il y a des jours qu'on s'est calme.
Oui, c'est vrai, c'est calme.
Regardez comme l'hiver. Mais quand la facture s'est passée, on ne voit plus personne.
Et oui, voilà. Vous êtes de la région ?
Non, je ne suis pas d'ici. Moi, je suis de la Loire. Je suis du côté de Saint-Rambert. Et moi, vous voyez, je me suis mariée et j'ai resté en Auvergne. On avait habité Saint-Bonnet, mais mon mari ne pouvait s'habituer pas. C'était la chasse, c'était de courir dans mes bois. On s'est mariés et je suis restée là. Mais maintenant, je suis toute seule. Enfin, j'ai bien ma fille, mais bon. Quand on est quand, on est quand. J'étais bergère. Mes parents avaient des vaches, des moutons et des chèvres.
Oui.
Le jour où je me suis mariée, ma mère, elle m'a dit, si tu t'en vas, on vend les moutons. Alors, je me suis mariée et les moutons, ils sont partis à la foire. Quand je suis arrivée ici, le pépé et la mamie, il y avait encore 4 vaches, là, des chèvres. Alors ma belle-mère, c'est parce qu'il est arrivé, elle a tombé, elle s'est décassée sa hanche. Alors après, il a fallu qu'elle se fasse opérer. Et nous, on était à Saint-Bonnet. Mais on ne voulait pas laisser le pépé tout seul.
Oui.
Alors regardez ce qu'on a fait après. On est là, on est là-bas. Après, le René m'a dit, moi, ça m'énerve toujours faire la navette. Alors on a resté là. On a resté avec le pépé et la mamie.
Voilà.
Et j'ai resté quand même 22 ans avec mes parents et 22 ans avec ma belle-mère.
Ouais.
Ça, c'est des choses, on s'en rappelle bien.
Voilà.
Donc, voilà comme je suis venue ici.
Et c'est à vous les poules aussi, là, qu'on voit, là. C'est vous qui avez des poules. Voilà, d'accord.
Ça me tient compagnie, mes poules.
Oui, bien sûr.
Ouais. Il faut s'occuper.
Bien sûr.
Bon, je fais un petit peu du jardinage. Et puis, maintenant, on va me rentrer mon bois. En passant tout l'été, là, je vais rentrer mon bois pour l'hiver.
Ben oui, bien sûr.
Voilà la vie en campagne. Vous savez pas ce qu'il disait mon beau-père autrefois ? Quand on avait fait les fenaisons, qu'on avait fait les moissons, qu'on avait ramassé les pommes de terre et qu'on avait tué le cochon, après on pouvait rouler la sampote à la cave et on pouvait passer l'hiver. Non mais ils n'étaient pas bêtes, n'empêche.
Ben, c'est sûr.
Voilà.
Merci beaucoup.
Allez,
bonne journée.
Bonne journée toutes les deux.
À une autre fois.
Au revoir.
Voilà la tournée autour d'Ambert dans cette Auvergne isolée. Ça fait longtemps que ces régions sont des régions difficiles, mais quand même, on trouve des mémoires, on trouve des histoires, on trouve un lien avec le passé. Combien ça vaut la conversation qu'on vient d'avoir, ça ? Si on parle en termes de rentabilité, on aurait pu passer plus de temps avec cette ancienne bergère, elle nous en aurait dit des choses. Quelle est la valeur de ces choses dites, de cette transmission, de ces savoirs, de cette culture là qui est là et qui disparaît absolument si on reste sur le seul et unique principe de la rentabilité. Une certaine rentabilité, pourquoi pas, mais pas comme principe numéro un, ou alors à choisir. Ou bien on met la rentabilité en avant, ou bien on met la bergère en avant et la mémoire de la bergère en avant. C'est des choix. C'est des choix qu'on peut faire. C'est pas joué. C'est nos choix. À chacun de choisir ce qu'il veut. Rien n'est imposé. Tout est encore ouvert à nous de choisir.
Alors là, c'est un autre village. Là, Saillant est là-bas, en fait. On tourne autour de Saillant tout le temps. Moi, je suis à temps partiel, là. J'étais à mi-temps, là je suis passée, mais c'est voulu, c'est après une maladie. C'est moi qui ai demandé. J'étais à mi-temps et là je suis repassée à 75% pour le moment. Mais quelqu'un qui rentre, c'est un petit peu plus que le SMIG. À temps plein, ça doit être 1 300 euros.
Mais on vous autorise encore comme ça, à rendre service aux gens en leur amenant l'argent ou les choses comme
oui,
ça?
Oui. Pour leur amener l'argent, oui, bien sûr. On a le droit d'amener de l'argent jusqu'à 150 euros.
Parce que la Poste, c'est toujours un service public ou maintenant c'est une entreprise vraiment privée?
Là, en 2011, on s'est ouvert à la concurrence, au 1er janvier 2011. Donc c'est sûr que maintenant, normalement, on a des concurrents. Mais bon, à la campagne, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Peut-être qu'en ville, sur les colis, si on en voit sur les colis ici aussi, quelques privés. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Sur le courrier, il n'y en a pas de toute façon. Vu les kilomètres qu'on fait, bon, c'est vrai qu'après, ça ne serait pas rentable, c'est sûr. Je vous laisse là, alors ?
Oui, parfait. À bientôt, au revoir.
L'ouverture à la concurrence du marché du courrier, c'est valable également pour la France, mais pas de panique.
RTL.
Le bastion de la Poste n'est pas menacé.
2 janvier 2011.
Oui, pour l'instant, c'est un flop. Le marché du courrier est en perte de vitesse. Les volumes à transporter se rétrécissent de 4% par an. Personne n'a vraiment envie de concurrencer son voisin. D'ici à quelques mois, des niches pourraient quand même attirer des opérateurs spécialisés, comme la distribution du courrier dans les quartiers d'affaires, la Défense par exemple, ou le traitement du courrier des banques. La Poste continuera d'assurer ce que l'on appelle le service universel. Passage du facteur 6 jours sur 7, une présence postale partout en France, le timbre au même prix quelle que soit la distance dans l'Hexagone. La concurrence, de toute façon, ne pourra qu'améliorer le service rendu, estime le patron du courrier à la Poste, Nicolas Routier.
C'est une exigence supplémentaire. Puisque nous sommes totalement en concurrence, nous devons garantir à nos clients une qualité impeccable.
Sinon, vous pourrez toujours dire à votre facteur que vous le quitterez dès qu'un concurrent se présentera.
Je m'appelle Martine Dogno et je suis responsable régionale de Sud PTT sur l'Auvergne.
Moi, je suis Jocelyne Boyer, facteur à Ambert.
Moi, Anne-Marie Bonnard, facteur à Saint-Gervais-sous-Mémont, rattachée à la Poste de Vertolaye.
Depuis le 1er mars 2010, c'est une société anonyme. Pour autant, le statut de l'entreprise, elle est toujours chargée d'une mission de service public, mais au sens de la directive européenne, c'est-à-dire distribuer le courrier dans tous les points du territoire 6 jours sur 7, avoir des bureaux de proximité qui puissent assurer les services de base de la Poste, et puis voilà, c'est tout. Il y a de plus en plus de services à rendre aux clients, comme ils disent, mais payants. Donc ça veut dire, quand on allait en zone rurale, normalement les facteurs, ils rendent service aux gens qu'ils connaissent. Donc, ils amènent les médicaments, ils peuvent amener la baguette de pain. Et bien là, c'est plus possible. Le portage des médicaments, ça doit être payant. Donc, il doit y avoir un contrat entre le pharmacien et la Poste. Et à ce moment-là, si la dame veut se faire livrer ses médicaments, elle doit payer.
C'est le pharmacien qui paye. Les contrats sont faits de telle sorte que, normalement, c'est le pharmacien qui paye. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Un envoi de médicaments, c'est autour des 4 euros. Et à l'avenir, même, le contact qu'on a avec les clients, le temps qu'on passe avec les clients, si on rentre chez eux, ce service-là, ils veulent à l'avenir le faire payer pour, par exemple, les personnes âgées. Si les personnes âgées sont seules, pour qu'il y ait au moins une fois par jour la présence d'une personne, donc le facteur. Et ce service-là serait payant. C'est dans les projets de la Poste.
Quel type de service, par exemple?
C'est notre présence, simplement, notre présence, de voir si la personne va bien, surtout si c'est une personne âgée.
Et vous savez, quand il y a eu la canicule, les contrats étaient passés aussi pour que le postier, puisqu'il passe partout, mais ce service-là était aussi payé à la Poste, passe chez les personnes âgées, voir si tout allait bien, si elles n'étaient pas malades, si elles respiraient bien, et voilà, s'inquiéter de leur santé, quoi, tout simplement. Mais ça, c'était même pas un service gratuit, quoi, ce qui est scandaleux.
Ce qui est grave, c'est que normalement, ça va de soi. En tant que facteur, c'est du social aussi. Et ça va de soi que de s'arrêter chez les gens, de prendre un petit peu leurs nouvelles, c'est dure 30 secondes et puis basta, quoi. Mais maintenant, c'est vrai que ça va devenir.
C'est le service public nouvelle mode.
Ils vendent tous les combats d'hier, les acquis des grands-pères. Ils vendent ce qu'ils rejettent, tous leurs déchets nucléaires. Ils vendent des dictatures et de l'or noir dans les assiettes. Des mètres cubes d'air pur, et ils ont décidé que ça s'achète.
Ils vendent même le sacré, le visage des guerriers, les slogans des révolutions en période de promo. Ils vendent les symphonies aux opérateurs de mobiles. Au pays du tiers-monde, ils vendent leurs vieilles automobiles.
Ils vendent tous les progrès passés et leurs vieilles maladies. Ne dévoilent jamais les secrets de leur belle pharmacie. Ils vendent la solidarité, les pièces jaunes des grands-mères. Préfèrent la charité, ont inventé l'humanitaire.
Ils vendent coûte que coûte tout ce qui leur coûte et même l'écoute. Vendent tous les engagements, même les mots, leur langagement. Ils vendent à coup de publicité des espoirs sans lendemain. Au public des cités à qui ils ont lié les mains.
Ils vendent la peau de l'homme, et bien avant de l'avoir tué. L'ours, le loup et l'orme sont des espèces du temps passé. Ils vendent des marées noires et sacrifient les littoraux. Dans la haine des gueulards, ils vendent l'agonie des taureaux.
Ils vendent de vieilles constitutions aussi malades que leur système. Ils condamnent la contestation dans des tribunaux qu'ils enchaînent.
Ils vendent depuis toujours le travail des travailleurs. On vend de nos vieux jours des mouroirs comme dernière demeure.
Alors voilà, il est 13h30 et on se trouve dans la zone industrielle d'Ambert, un peu à l'extérieur de la ville. C'est une journée froide et grise, il y a une petite brume fine qui tombe, un brouillard épais qui s'est abattu sur les collines. Et on est venu ici parce que dans la zone industrielle se trouvent les Restos du Cœur d'Ambert. Selon l'INSEE, plus d'un Auvergnat sur 8 se trouve sous le seuil de pauvreté. Et l'Auvergne fait partie d'une des régions les plus pauvres de France. Alors on va se diriger vers les Restos du Cœur, qui se trouvent donc dans une petite rue, dans la zone industrielle, derrière une fabrication de céramique.
Voilà. Ville morte, campagne déserte, mais pas du tout. Il y a des endroits où il y a beaucoup de monde.
Bonjour.
Voilà, on offre le café aux gens, un petit peu d'accueil, on leur remonte un peu le moral si on a besoin. Voilà.
Ils donnent déjà du travail.
Qu'est-ce que vous me disiez ?
Je disais, il faut que les riches donnent un peu aux pauvres, il y en a ras-le-bol, quoi.
Non, mais déjà de l'emploi, et puis ça sera déjà bien. Parce que s'il y avait de l'emploi, ben les gens, il y aurait beaucoup moins de gens ici à venir commander, là, ça c'est clair. Faut pas croire que ça fait plaisir, ça nous fait plaisir de venir ici, c'est clair, ça.
Vous êtes à la recherche d'un emploi ?
Non, je suis en retraite, mais je travaillerai encore. S'il faut, mais j'ai deux gamins, ils sont à l'école encore. Alors, hein, c'est ça le problème.
Moi, je suis à la recherche d'un emploi, mais bon, il n'y en a pas, quoi. C'est que des contrats d'insertion, des petits contrats de 20 heures par semaine, quoi. Donc, pour vivre, après, c'est impossible avec 700 euros. Non, puis bon, c'est vrai que la région, elle est vachement sinistrée, parce qu'on est quand même une sous-préfecture. Au niveau, par exemple, des transports des bus, on a un car le matin et le soir, quoi. On est quand même une sous-préfecture. Il n'y a pas de train. Premier train, c'est 50 km, Pont d'Or.
Et bientôt plus d'hôpital.
Donc en fait, on est une sous-préfecture en train de mourir, quoi.
Voilà. Je vais vous donner deux, trois exemples. Pour avoir un rendez-vous avec un kiné, il faut attendre un mois et demi.
2 mois, j'ai appelé ce matin. Ouais. 2 mois.
Pour avoir un rendez-vous à un dermatologue, il faut attendre pratiquement un mois, alors que l'autre, il est en train de se peler les mains. C'est qu'Ambert, c'est en train de se perdre.
Monsieur Dréan,
Vous êtes d'Ambert ?
À côté, à 10 km. Mm.
Vous êtes originaire d'ici ?
Non, mais ça fait 20 ans que j'habite là. Donc un peu auvergnate de cœur, on va dire.
Vous appelez comment ?
Caroline Revaux. On est hyper sinistrés, quoi. On est hyper sinistrés ici. Oui, on est en train de mourir, quoi. En plus, la population est quand même vieillissante. Et du fait qu'il n'y ait plus de maternité, les gens ne vont plus venir s'installer ici. Donc, ça va être encore plus vieillissant. Puis, il n'y aura pas du tout de boulot, quoi. Donc, on est mal barré, quoi. Voilà.
Vous vous appelez comment, votre prénom ?
Je m'appelle Valérie.
Et vous êtes bénévole au Resto du Cœur ?
Pas du tout.
Elle est bénéficiaire.
Vous êtes bénéficiaire aussi ?
Oui. Moi, je vis seule avec mon enfant. Je n'ai pas d'aide, puisque ayant un enfant, j'ai pas droit aux allocations. Le père de mon fils ne me verse pas de pension alimentaire. Et c'est pas évident de se dire un jour, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Il faut y aller. Et la première fois que je suis venue, mais j'étais en larmes. En larmes. Et même si je donne l'impression de quelqu'un qui est très sûr d'elle et tout, c'est pas du tout le cas, parce que ça me fait encore mal au ventre de venir là. Mais je me dis, peut-être qu'un jour ça s'arrêtera. du travail. Je demande qu'à travailler, mais bon, il n'y en a pas. J'ai écrit une vingtaine de lettres et de mails depuis le début de l'année. Personne ne répond. Donc, je ne sais plus quoi faire, quoi. Et ce qui m'embête le plus, c'est que j'ai un enfant qui aime apprendre. J'aimerais pouvoir lui offrir des études comme il mérite. Et ma hantise, eh ben, c'est d'un jour de ne pas pouvoir arriver à payer et qu'il soit obligé d'arrêter ses études. Ça, j'arrive pas.
Vous avez des enfants scolarisés ?
Oui, j'ai un enfant scolarisé en sixième. C'est un collège qui est menacé, oui. Donc oui, je me bats parce que si tout le monde déserte les collèges ruraux, il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus rien. C'est un cercle vicieux. Les collèges, ils les ferment dans les milieux ruraux et à côté de ça, ils vont construire des établissements sur Clermont où ils sont surpeuplés et où les classes, c'est plus de 30 élèves par classe.
C'est vrai ce que tu dis, Valérie, parce que un enfant qui va étudier dans une classe où il y a peu d'enfants, il aura moins d'échecs scolaires, alors qu'un gamin de banlieue lyonnaise ou parisienne ou de banlieue de ville tout court, bah, il va galérer parce qu'il y aura 40 élèves par classe, quoi. Donc s'il a une marge de retard, bah, on va le laisser dans sa marge de retard qu'il n'arrivera jamais à rattraper.
Et vous, dans la classe de votre fils, ils sont combien d'élèves ?
À l'heure actuelle, ils sont 20 élèves. Alors j'espère que la réunion qui a lieu jeudi, elle apportera quelque chose. On se bat peut-être pas pour nos enfants tout de suite, mais au moins pour les générations futures. Parce qu'il faut aussi penser à eux. Les gens qui sont venus dans la région, qui ont fait construire, qui ont mis toutes leurs économies dans leur maison parce que ils ont trouvé un boulot et voilà, ou qui se sont installés, je pense aux artisans, aux agriculteurs, toutes ces personnes-là, et qui vont finir par couler parce qu'on leur laisse pas le choix.
Donc ça fait quand même beaucoup de choses qu'on fermait en très peu de temps.
Donc là, c'est la chirurgie qui est plus ou moins en train de fermer.
Elle va fermer. Ben, la réa a fermé. Là, il parlait de fermer quoi aussi ?
Le bloc,
voilà.
Ça veut dire que si, par exemple, vous avez un accident, que vous avez besoin d'accéder à un bloc opératoire, le plus proche,
c'est... Il vaut mieux mourir, ouais, d'abord. Crois, ouais. Si on meurt, on a plus de chances d'aller au paradis que d'aller à l'hôpital. Je pense qu'il vaut mieux mourir si on a un accident. Hein ? Il n'y a plus rien. C'est la folie, c'est un monde de folie. Je sais pas où on va. Des fois, je me dis qu'il faudrait faire une comme en mai 68. Tout faire péter.
C'est ce que je dis, faire la révolution. C'est ce que je dis.
Tout faire péter. On irait, hein.
La révolution. Ah, moi, je suis la première. Hein.
Bon, bah, allez, on y va.
Ouais, on va y aller. Bon, bah, en tout cas,
merci à vous. Vous aussi, au revoir.
1200 personnes selon la police,
Télé Toulouse,
2000 selon les syndicats se sont mobilisés ce matin,
11 février 2011,
contre les suppressions de postes à la rentrée prochaine et contre la politique gouvernementale en matière d'éducation.
Quand on supprime 30 000 postes sur 3 ans, ça finit par se voir.
Y en a assez, ça suffit.
En Haute-Garonne, 43 postes seront supprimés à la rentrée prochaine, tandis que 1200 élèves de plus sont attendus. De probables suppressions de classes inquiètent également les enseignants, notamment en milieu rural.
Pour nous, c'est très important de garder nos écoles à proximité, parce qu'après, ça veut dire des kilomètres pour les familles. Voilà, et ça se joue à un ou deux élèves près pour l'instant, donc on va vraiment se battre pour garder ce poste-là.
Alors voilà, on est jeudi, il est 19h et on vient d'arriver à Saint-Dié d'Auvergne, à 1h environ d'Ambert. C'est fou, il y a des voitures partout. Le parking est plein, il y a des voitures garées des deux côtés des trottoirs. Et là, on est en train de se diriger vers la salle de la briqueterie, où se tient une réunion organisée par le collectif de défense et de développement des services publics concernant l'avenir des collèges ruraux. L'inspection académique veut regrouper 4 collèges et créer un multisite, ce qui provoque un vif émoi dans la population qui craint qu'à terme, ce projet aboutisse à la fermeture des collèges. Alors là, on se trouve devant la salle de la briqueterie et on va rentrer parce qu'on est un petit peu en retard et la réunion doit avoir déjà bien commencé.
Pour la rentrée scolaire prochaine, le statut des établissements du réseau rural d'éducation du Livradois n'est pas amené à évoluer. Donc c'est un recul. Un recul significatif du recteur qui est à mettre à l'actif de la mobilisation. Donc là, encore une fois, je pense qu'on peut s'applaudir parce que c'est grâce à nous qu'ils refusent. Et ceci dit, c'est une petite reculade. C'est une petite reculade. Et bien évidemment, son objectif à travers ce communiqué, c'est de nous démobiliser. Or, j'espère que ce soir on va discuter, mais il faut qu'on reste mobilisé, qu'on se mobilise encore plus demain pour faire en sorte que nos enfants aient le collège de qualité qu'il faut et de proximité pour leur réussite scolaire. Donc je ne vais pas en dire plus. Voilà, alors maintenant, vous avez la parole. J'espère qu'on va pouvoir débattre. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un aussi, deuxième problème technique, quelqu'un qui puisse assurer la circulation du micro sans fil.
Aujourd'hui, je vais parler au nom des collégiens, tout au moins ceux de Saint-Dié. À tous, camarades, pour nous en sommes, nous n'avons plus aucune chance de discussion avec ceux qui menacent. Aujourd'hui, notre seule chance, notre dernière chance, c'est de se mobiliser. Et si les petits collèges tombent, les plus gros suivront. Quand tous les collèges seront tombés, où iront les élèves? Où iront-ils tous? Où? En ville.
Dans le privé.
Il a raison. Il a raison. Selon le gouvernement. Oui, ils iront en ville. C'est ce que veut le recteur. Et vous savez aussi ce que ça peut signifier pour leur réussite scolaire d'aller en ville? D'aller loin, dans les classes surchargées, pour acquérir des bases qu'ils auraient pu acquérir ailleurs, près de leur lieu de vie. À quoi ça va leur servir? À rien. À rien.
Vous êtes parent d'élève, ça?
Je suis parent d'élève au collège de Liergues. Collège de Liergues, donc le deuxième collège à fermer dans le collimateur de l'IA, quoi.
De l'inspection académique. Voilà. Et donc, vous, c'est un collège qui a combien d'élèves à peu près?
Une centaine. De toute façon, ils veulent détruire le territoire. Je ne sais pas s'ils veulent créer des grandes chasses comme en Sologne ou quoi, mais nationales. Mais ils veulent nous détruire, qu'il n'y ait plus un rat sur le secteur. C'est catastrophique, ça. On veut détruire l'agriculture, on veut tout détruire. Quand il n'y aura plus personne, ce sera très bien. Il n'y aura plus de frais, il n'y aura plus besoin d'entretenir les routes, ça arrangera tout le monde.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis agriculteur. Je fais partie de ces gens qu'on appelle les CSP défavorisés.
Qu'est-ce que c'est?
Tout agriculteur est CSP défavorisé. Eh bien, on n'a pas des revenus suffisamment importants. Donc on a des élèves qui ne sont pas bons à l'école. Donc on a tout ce qui ne va pas. Et c'est vrai qu'au Liergues représente une cinquantaine de pourcents d'élèves dans cette situation-là. Et Saint-Amand aussi. Et c'est ce qu'on nous fait ressentir à l'académie toutes les fois. Ah, vous avez beaucoup de CSP défavorisés. Mais moi, je suis fier de l'être parce qu'on nous contraint à l'être. Donc, il n'y a pas de souci.
CSP, dites-moi, c'est quoi?
Catégorie socio-professionnelle.
Vous faites quoi comme culture?
Je suis agriculteur, éleveur de bovins viande. Donc, tout le monde sait que ça gagne beaucoup à l'heure actuelle.
Monsieur le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
La chaîne parlementaire.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés.
Éric Woerth.
Il y a trop de dépenses publiques en France.
24 juin 2009.
Nous en sommes à peu près tous d'accord, j'imagine. Nous avons un niveau de dépenses publiques qui est plus important que le niveau de dépenses publiques que connaissent la plupart des grands pays industrialisés. Seule la Suède est à peu près au même niveau que le nôtre. Nous avons donc besoin de progresser pour essayer de faire en sorte que la qualité du service public soit rendue à un juste coût. C'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Et nous allons continuer et amplifier cette révision générale des politiques publiques. Le président de la République nous demande d'aller à la fois beaucoup plus loin, d'aller à la fois beaucoup plus vite. D'ici quelques semaines, je vous proposerai une nouvelle liste d'organismes inutiles à supprimer.
Organisme inutile à supprimer, voilà le plan bien connu du gouvernement à travers la voix d'Éric Woerth. On va finir ce reportage. Il faudrait continuer. On pourrait être dans 50, 100 endroits comparables où les problèmes et les sujets sont comparables en France aujourd'hui. Rencontre avec André Chassaigne, qui est député communiste du Puy-de-Dôme. On le rencontre à Saint-Amand, Roche-Savine.
Il y a deux conceptions d'aménagement du territoire. Il y a le drainage et il y a l'irrigation. Le drainage, ça consiste à prendre les ressources, les flux, ça peut être les flux financiers, les productions, et les conduire vers les zones qui sont les zones de compétitivité, considérées comme étant compétitives, c'est-à-dire notamment les villes, là, véritablement, où on pourra faire de la performance, où il y aura moins de coûts, soi-disant. Et donc ça, c'est la conception d'aménagement du territoire qui est mise en œuvre aujourd'hui. Moi, pour ma part, je préfère l'irrigation. C'est-à-dire qu'au contraire, on irrigue le territoire. Et que la richesse, elle va venir d'un territoire vivant. Et je suis persuadé qu'à l'échelle de... Ça paraît un peu ambitieux, mais à l'échelle de l'histoire, c'est catastrophique de désertifier des territoires parce que ces territoires, ils ont de l'avenir en termes de qualité de la vie, en termes d'équilibre social. On vit à notre niveau ce qui se fait dans les pays du Sud, avec la disparition de l'agriculture vivrière pour des grandes multinationales qui font de la monoculture, qui vont par exemple importer chez nous des agrocarburants pour se donner bonne conscience en mettant 10% d'agrocarburants dans notre carburant, hein, avec la suppression des cultures vivrières qui est en fait organisée par les multinationales pour se faire de l'argent, c'est des populations entières qui se massent dans les agglomérations dans les pays du Sud. Avec une situation qui est invivable en termes de malnutrition, en termes de famine, en termes de violence, c'est quelque chose qui est invivable. Et même chez nous, quand on regarde bien, le phénomène est guère différent, où on accumule des populations autour des villes et avec des barils de poudre, en fait, avec une impossibilité de trouver un équilibre social. Une impossibilité, avec une situation qui s'aggrave. Or, on accentue le problème. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a intérêt à avoir un territoire équilibré, une population qui est répartie sur le territoire, avec donc des bourgs-centres dans les territoires ruraux, avec des services publics, avec une vie culturelle, avec des loisirs, avec une qualité de la vie, et donc avec des emplois, parce que c'est ça qui est important, avec des PME, des petites et moyennes entreprises, avec une agriculture qui puisse vivre de sa production, avec des circuits courts, des circuits de proximité, avec une économie que l'on va construire au plus près des populations et répartie sur le territoire. C'est ça. Alors, est-ce que c'est rêvé que de dire ça? Est-ce que c'est rêvé que de dire ça? Et je suis persuadé qu'en plus de ça, c'est l'efficacité historique de faire ça. Enfin, c'est incroyable qu'on ait de l'argent, on bougie tout, quoi.
Merci à André Chassaigne, Olivier Heuner, à Caroline Révaux et à Valérie, à Michèle Laurent, notre auditrice, qui nous avait alerté sur la situation autour d'Ambert. Merci à Michel Viala, Martine Degnaud, Jocelyne Boyer et Anne-Marie Bonnard. C'était un reportage de Charlotte Perry, « L'état démantelé, enquête sur une révolution silencieuse ». C'est un livre qui a été dirigé par Laurent Bonnelli et Willy Pelletier, qui est publié aux éditions La Découverte avec Le Monde Diplomatique. On se retrouvera lundi, je pense, avec l'équipe du Monde Diplomatique. Et demain, on revient sur un anniversaire, l'anniversaire de la mort de Jean Ferrat. Donc, hommage à Jean Ferrat demain dans La Basse et J'y suis. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission La Basse et J'y suis, où vous pouvez écouter cette émission et faire des commentaires. Même jeu sur labas.org, la-bas.org. La technique aujourd'hui, Basile Bocquer et Jean-Philippe Jeanne, Coye Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Le Bot. Et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de La Basse et J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.